Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Dans l'agenda du mois de mai, nous évoquons la section de Cannes Classique en compagnie de Gérald Duchossois, la rétrospective Claude Antan-Lara à l'Institut Lumière, sans oublier bien sûr les nombreuses ressorties. Nous débutons cette partie événement avec la sélection de Cannes Classique qui se déroulera pendant le Festival de Cannes du 9 au 19 mai. Nous en parlons en compagnie de Gérald Duchossois, assistant de Thierry Frémaux pour le Festival de Cannes et spécifiquement sur Cannes Classique. Gérald Duchossois, bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand est né Cannes Classique? Ça fait un petit moment
Cannes
maintenant.
Cannes Classique, c'est né en 2004, dû à la volonté de Thierry Frémaux de donner au sein du Festival de Cannes ses lettres de noblesse en ce qui concerne le patrimoine, puisqu'il y a toujours eu du patrimoine projeté durant le Festival de Cannes. Et suite à une grande rétrospective Fellini qui avait été organisée en 2003, l'affiche avait été un dessin de Federico Fellini. Il y avait eu de nombreuses copies neuves. La volonté de Thierry Frémaux a été de créer une section à part entière qui soit uniquement dédiée au patrimoine, avec des films de patrimoine. Alors à l'époque, c'était plus des copies neuves, des copies qui venaient de cinémathèques pour montrer des films de patrimoine peu vus, ou alors des ressorties de distributeurs qui travaillaient d'arrache-pied à la sortie du patrimoine, notamment en France. Et de plus en plus, la section a évolué vers des films qui sont projetés pour la toute première fois, qui viennent d'être restaurés, qui sont en cours de restauration lorsqu'ils nous ont proposé, donc des premières mondiales de restauration, si vous voulez, 2K, de plus en plus 4K, parfois des copies neuves, parfois des copies qui viennent d'archives qui peuvent être de par le monde, des copies 35 mm ou 70 mm comme c'est le cas avec 2001 cette année. Donc une section qui a évolué vers ce que le Festival de Cannes est, c'est-à-dire un festival qui montre des films qui viennent d'être terminés en première mondiale pour le public du Festival de Cannes.
Vous venez d'en parler, l'événement majeur, ce sera la projection en effet de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick qui fête ses 50 ans. En présence du réalisateur Christopher Nolan. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle restauration ?
Alors, ce n'est pas une restauration au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est une recréation photochimique. Donc, ça veut dire qu'on repart du négatif caméra pour pouvoir tirer à nouveau une copie 70 mm du film tel qu'il a été projeté à l'époque, avec une pause de 15 minutes qui s'arrête à la 70e minute. Et puis, à partir de là, on peut effectivement montrer le film tel qu'il était à l'époque, donc sur le support film, comme c'était le cas en 1968. Donc c'est une projection qui diffère de la plupart des projections Cannes Classiques où on est avec des copies numériques, donc maintenant des DCP, des films qui sont sur des disques durs et qui sont restaurés, donc nettoyés pour pouvoir être à nouveau montrés, à nouveau exploités, à nouveau être diffusés et qui empruntent tous les nouveaux canaux de distribution et de visionnage possibles qui sont offerts au patrimoine ou pour lequel le patrimoine se bat en tout cas. Donc là c'est vraiment un événement dans une optique un petit peu différente de ce sur quoi on travaille dans la section à proprement parler.
Alors, vous participez à un thème qui m'est cher, qui est l'écriture de l'histoire du cinéma à travers les femmes, puisqu'il y a à la fois le documentaire sur Alice Guy et celui sur Jane Fonda.
Exactement. Alors, il y avait effectivement de nombreuses propositions qui allaient dans ce sens, puisque l'histoire des femmes dans la création du cinéma est de plus en plus réévaluée, j'allais dire notamment, mais je pense que c'est plus de plus en plus. Alors il y a maintenant 3 ans, nous avions montré le documentaire de Clara et Julia Kupperberg, qui avait fait forte impression aussi avec les femmes qui avaient construit Hollywood. Et les propositions qui arrivent cette année aussi étaient fortes en ce sens-là. Il y a ce documentaire sur Alice Guy, qui est une sorte d'enquête policière à la fois historique et cinéphilique.
Sur une femme qui a inventé le métier de réalisateur, il faut quand même, et les studios de cinéma.
C'est quand même incroyable de savoir qu'une femme est à l'origine, effectivement, de nombreuses avancées techniques, de nombreuses avancées dans la production aussi. Elle a dirigé un studio, elle a créé et dirigé un studio aux États-Unis avec son mari, Solar, si je me trompe pas. Il y a effectivement toute une redécouverte à faire de la vie de cette femme, de sa carrière aussi en tant qu'artiste. Et donc le documentaire est très vivant, très vif, vraiment très moderne. C'est ça qui nous a beaucoup plu. C'était vraiment un aspect très dynamique de la redécouverte du cinéma. Quant à Jane Fonda, je vous avoue que là, c'était vraiment un coup de cœur parce que c'est une femme qui fait partie de l'histoire du cinéma à part entière. C'est une famille de cinéma aussi. Et quand on a vu le film, on a été vraiment bluffé par les nombreuses couches qui émanent de ce documentaire, à la fois cinématographique, social, politique, un destin de femme, un documentaire intimiste, une actrice au travail qui à la fois un pied en France, aux États-Unis, qui a participé au nouvel Hollywood de plein pied, qui a obtenu des Oscars, des comédies populaires, enfin vraiment une carrière très très variée et aussi très impliquée politiquement. Le documentaire est vraiment passionnant de bout en bout, ça dure 2h15, ça se regarde comme si ça durait 5 minutes. C'est vraiment un coup de cœur cette année. On a souhaité vraiment le mettre en avant. D'ailleurs, c'était dans l'annonce que nous avons faite, c'était les deux documentaires qui étaient en premier parce que ils nous ont touchés et on avait vraiment envie de pouvoir les montrer au public du Festival de Cannes.
Oui, vous favorisez d'ailleurs nettement les documentaires consacrés aux grandes figures du cinéma, puisque outre Jane Fonda, il y aura aussi Orson Welles. Il y a 2 documentaires sur Ingmar Bergman. Bergman sera d'ailleurs aussi à l'honneur avec la projection du 7e Sceau. Et puis, on y découvre plein de choses, à la fois des raretés, je dois dire, moi, de cinéastes que je ne connais pas. Ça sera intéressant de les découvrir, des cinéastes totalement méconnus. Et puis également, des œuvres plus grand public, voire un peu nostalgiques. Je pense aux spécialistes de Sergio Corbucci, avec Johnny Hallyday, qui sera présenté au cinéma de la plage. C'est une sélection, une fois encore, très éclectique.
Oui, alors on aime bien varier les genres, les cinématographies, le côté cinéphilie grand public. Quand on montre Le voleur de bicyclette, effectivement, on se dit que tout le monde l'a vu. Certes, tout le monde l'a vu quand on a 40 ans, 30 ans peut-être, et qu'on aime le cinéma. En revanche, quand on a 15 ou 18 ans, comme les nombreux cinéphiles que nous accueillons à Cannes Classics, il est peu évident que tous nos cinéphiles jeunes aient vu Le voleur de bicyclette, restauré en 4K par la Cinémathèque de Bologne. Donc on a toujours ça à l'esprit, cette redécouverte, cette envie de montrer à la fois des grands classiques de l'histoire du cinéma et puis à la fois d'aller vers des cinématographies, des contrées qui sont peu montrées, comme la Lettonie cette année. Je vous avoue que quand on a reçu les films, moi-même, je ne suis pas un expert en cinéma letton. En revanche, quand on vous montre les films, vous êtes tout à fait capable de vous dire si oui ou non les films ont une importance, de les resituer dans l'histoire, dans l'époque et dans les avancées techniques, de savoir où ils en étaient. Et en fait, ce sont plus des éblouissements que des déceptions la plupart du temps, comme le film russe Guerre et Paix que nous allons montrer le premier jour. Je vous avoue que le film de 1965, moi je le connaissais de nom, j'avais vu la version américaine. Quand j'ai vu le film restauré par Mosfilm, qui est donc le grand studio russe, je suis tombé des nues parce que c'est magnifique. On a à la fois l'histoire, des avancées technologiques incroyables, des scènes de bataille époustouflantes. Donc on est vraiment dans du grand cinéma. Je pense que là, cette année, à la fois au niveau des différentes cinématographies comme la Lettonie, la République tchèque, ou alors un peu plus connues, comme les États-Unis ou l'Italie ou le Japon avec Ozu, qui sont vraiment les grands territoires de cinéma explorés traditionnellement. On souhaite toujours aller dans des contrées moins attendues, comme le film que nous allons montrer de Georges Pizer, qui est un film néerlandais tourné au Brésil, en techniscope, donc vraiment une image magnifique qui est faite par Yann de Bond, donc le chef opérateur historique de Paul Verhoeven, et qui a fait une carrière aux États-Unis incroyable avec des films comme Twister ou alors avec Speed. Donc vraiment, ce qui est assez incroyable avec les différentes cinématographies qu'on explore tous les ans, c'est le fait de voir les films qui après arrivent avec différents techniciens à des postes importants et des films plus connus, et ça nous permet justement de nous replonger dans des choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaissait plus et qui vraiment nous éblouissent à chaque fois. Ça, c'est vraiment un de nos plaisirs de pouvoir remettre ces films-là en avant et de dire aussi, voilà, il y a des cinématographies à redécouvrir. On a à la fois Le voleur de bicyclette et puis à la fois Quatre chemises blanches, un film letton de 1967.
Et puis ces films seront également présentés par de nombreuses personnalités, donc un événement incontournable pendant le Festival de Cannes, Cannes Classique, donc du 9 au 19 mai. Merci beaucoup Gérald Duchossois de l'avoir évoqué avec nous.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Parmi les autres événements de ce mois, citons Antoine la rétrospective Claude Antan-Lara à l'Institut Lumière à partir du 3 mai. J'en profite pour dire qu'un livre de Jean-Pierre Blesse aux éditions Actes Sud Institut Lumière revient également sur la carrière de ce cinéaste parfois controversé et préfacé par Bertrand Tavernier.
Oui, alors Claude Antan-Lara, c'était un personnage qui au fil du temps et au fil de la montée de son amertume, hein, parce que évidemment la fin de sa carrière a été beaucoup moins glorieuse que son début de carrière, donc il était devenu assez amer, il était devenu, il faut bien le dire aussi, d'extrême droite, et donc ceci a parfois conduit à ce qu'on oublie le début et le milieu de la carrière de Claude Antan-Lara. Alors il incarnait un peu ce qu'on appelait parfois ce cinéma français de qualité, notamment parce qu'il avait travaillé souvent avec les scénaristes Jean Orange et Pierre Bost, mais enfin il était quand même très très loin de ce cinéma français parfois un peu lénifiant qui a été stigmatisé notamment par la Nouvelle Vague, hein, parce que dans les films d'Antan-Lara, il y a vraiment des films qui sont assez violents par leur critique de la société, par ce qu'ils expriment, hein. Vous avez La Traversée de Paris, évidemment, avec Gabin et Bourvil, qui est peut-être son film le plus connu, mais vous avez aussi L'Auberge Rouge, qui est un film qui a rouge dans le titre, mais qui est quand même un film d'une noirceur incroyable. Vous avez des films peut-être moins connus aujourd'hui, comme Le Mariage de Chiffon, qui sont des films dans lesquels il y a une véritable critique sociale. Il y a ce film assez dément qui signe la rencontre entre Gabin et Brigitte Bardot En cas de malheur, qui est un film dans lequel une Bardot très provocante avec un Gabin là aussi très amer. Il y a des films pas connus, il y a des films anglais, par exemple, de Antan-Lara. Il y a vraiment, c'est quelqu'un qui a une filmographie tout à fait étonnante, très riche, qui critique beaucoup la société française, qui la critique aussi pendant la guerre, hein. Je pense à ce film tout à fait hallucinant avec Pierre Perret et Henri Virlogeu qui s'appelle Les Patates, et qui est un film qui se passe pendant la guerre. Et donc le fait d'avoir une rétrospective très complète sur Antan-Lara, préfacée effectivement par Tavernier, qui est peut-être le plus fin connaisseur de la planète sur ce cinéma français des années 40 à 60, c'est vraiment quelque chose qui manquait, et c'est vraiment une chose à laquelle tous les Lyonnais, mais aussi les non-Lyonnais, après tout c'est une ville très bien desservie par le train, doivent absolument courir.
Dis donc, tu sais qu'il m'a pas payé le jambier?
Non, c'est pas possible. Il t'a pas payé ce salaud-là?
Ah non?
Deux autres vins chauds.
N'allez pas me faire voler mon gars toute la nuit, non?
Eh ben, donnez-en quatre et puis qu'on en parle plus.
Alors, sans blague, il t'a pas payé, mais qu'est-ce qu'il t'a donné comme raison?
Il m'a dit, la caisse est fermée. Bon.
Il s'est imaginé que je partagerais avec toi.
Je ne sais pas ce qu'il s'imagine, mais ce que je sais, c'est que je n'accepterai pas.
Mais je te le propose pas.
Tu me le proposerais, je refuserais.
Comment peux-tu savoir que tu refuserais puisque je te le propose pas?
Oh, puis merde, tiens.
Nous évoquons maintenant les ressorties de ce mois de mai et on commence avec un film inédit depuis longtemps, La fiancée du pirate de Nelly Kaplan, réalisé en 1969, qui est dans les salles depuis le 2 mai avec bien sûr Bernadette Lafont, Julien Guillaumard, Michel Constantin et Georges Guéret. Bernadette Lafont joue une jolie vagabonde qui se venge des humiliations subies par elle et sa mère en séduisant tous les notables d'un village. Rappelons que Nelly Kaplan fut assistante d'Abel Gance avant de réaliser ce premier long métrage interdit aux moins de 18 ans à l'époque, mais un grand succès public. Un rôle emblématique pour Bernadette Lafont qui est, je dois dire, formidable en femme insolente, vengeresse et libérée. Pour ma part, je trouve que le film a pas mal vieilli quand même du point de vue notamment de la mise en scène. L'image n'est pas tout à fait à la hauteur, mais il n'a rien perdu de son acuité et de sa férocité. C'est à la fois un manifeste féministe assez provocateur, tout en étant aussi une farce égrillarde. Et
totalement déjanté quand même.
Totalement déjanté, oui, mais plaisant. Et puis la jante masculine en prend sacrément pour son grade, hein. Médiocre, lâche et fourbe. Ça évoque aussi par instant Buñuel, sans bien sûr la folie créatrice. J'en profite pour signaler également que 4 films de Nelly Kaplan sont édités chez Lobster Film. Plaisir d'amour, Il faut vivre dangereusement, Papa les petits bateaux et Charles et Lucie. Autre ressortie, celle de La chair de l'orchidée de Patrice Chéreau, réalisée en 1975 sur les écrans depuis le 2 mai en version restaurée. L'histoire d'une riche héritière, Charlotte Rampling, enfermée depuis des années dans un asile psychiatrique par sa tante, Edwige Feuillère, qui veut s'accaparer sa fortune, mais elle parvient à s'échapper, rencontrer un éleveur de chevaux, campé par Bruno Kremer, à la merci de 2 tueurs qui veulent l'éliminer. Il s'agit du premier long métrage de Patrice Chéreau, adapté du roman de James Hadley Chase, qui est en fait une fausse suite de Pas d'orchidée pour Miss Blandish, qui avait été porté brillamment à l'écran par Robert Aldrich en 1971. Là, on est très éloigné d'un classique film noir à l'américaine, malgré les conventions du genre. On se laisse envelopper par l'atmosphère baroque et crépusculaire aux accents quasi fantastiques, avec ses décors embrumés et délabrés, cette lumière bleu-verte signée Pierre Lhomme. C'est aussi un film sur la décrépitude des êtres, qui avance dans l'intrigue telle des fantômes, voire la cour de garde du corps qui suit perpétuellement le personnage d'Edwige Feuillère, à l'image aussi du cirque désert et abandonné, tenu par Simone Signoret dans un rôle court mais marquant. Et on est bien sûr toujours frappé par le magnétisme de Charlotte Rampling. Patrice Chéreau n'avait pas beaucoup de considération pour ce film qu'il jugeait improbable. Voilà donc une excellente occasion de lui donner tort et de revoir ce film passionnant.
Qui c'est ?
C'est la fille de l'orchidée.
Vous la reconnaissez ? C'est ma cousine. Vous saviez qu'elle était très riche. Elle a dû vous le dire quand vous avez couché ensemble.
Vous aussi, on vous cherche.
Oui.
Elle n'a pas reparlé de l'accident ? Du camion ?
Non. Avons-nous jamais laissé un témoin ?
Facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, vous le savez bien, docteur.
Bref, la place de cette fille est à l'asile.
Pourquoi ils me détestent tous ? Pourquoi suis-je toujours enfermé ?
Il y a des moments dans la vie où il faut savoir tourner la page.
Non, jamais laissé de témoin. Ils sont fous, moi.
Ils vont vous abattre pour de bon.
L'homme tranquille de John Ford, Antoine, réalisé en 1952 avec John Wayne et Maureen O'Hara, est de nouveau sur les écrans le 9 mai.
Oui, alors c'est un film qu'il faut absolument voir sur les écrans. C'est un film aux couleurs absolument magnifiques, et ces couleurs sont celles de l'Irlande que John Ford avait tenu à filmer en décor naturel, car ce film est une véritable déclaration d'amour à l'Irlande. Alors dans ce film, on peut dire d'une certaine manière qu'il y a beaucoup de machisme, mais en même temps le personnage féminin joué par Maureen O'Hara, tandis que le personnage masculin est joué par John Wayne, le personnage féminin qu'incarne Maureen O'Hara, c'est aussi une allégorie de la terre nourricière. C'est vraiment elle qui est au centre du film. Il y a aussi une chose que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la relation des gens de peu à l'argent. Parce que on parle pas mal d'argent, on montre que dans le monde de ces paysans irlandais, la question de l'argent est importante, mais au fond, c'est pas une notion de cupidité, c'est un message par lequel John Ford dit dit aux Américains, écoutez, voilà, vous êtes en train d'entrer dans une civilisation qui est riche, qui est opulente, dans laquelle plus rien n'a de valeur, alors que dans le monde paysan dans lequel on a nos origines, l'argent a une valeur, et il a tellement de valeur que finalement, il fait partie des traditions populaires, il fait partie de la richesse du pays nourricier. Et donc, il y a plein de petites notations comme ça, qui sont très touchantes, dans lesquelles John Ford met beaucoup de tendresse. Bref, c'est un film qui mérite vraiment d'être vu ou revu pour ceux qui ne le connaissent pas.
Et autre film enfin qui mérite d'être vu ou revu, c'est Le Voyeur de Michael Powell, réalisé en 1960, qui lui est sur les écrans le 23 mai avec Carl Baum, bien sûr, et Anne Massey. Je resitue rapidement l'histoire, hein, celle d'un jeune homme énigmatique et solitaire, opérateur caméra dans un studio de cinéma, qui, une fois la nuit tombée, traque des jeunes femmes afin de capturer l'expression de la peur sur le visage alors qu'il s'apprête à les tuer. Rappelons, c'est important, que le film sort la même année qu'un certain Psychose, mais ne connaîtra pas franchement le même succès.
Alors, d'abord, il va effectivement pas du tout se passer la même chose, parce que Powell va montrer son film aux journalistes, et les journalistes anglais, qui ont l'habitude des films de Powell, qui sont déjà un petit peu déstabilisants, mais qui restent très convenables dans leur récit et dans la façon de faire, là, le film est extraordinairement transgressif, et donc, à la fin de la projection, Michael Powell rencontre la journaliste du Times, qui d'ailleurs s'appelait Powell aussi, mais elle n'était qu'homonyme, et elle lui dit « Alors, est-ce que le film vous a plu ?» Et là, très sèchement, elle lui dit « Écoutez, Michael, vous verrez ça dans le journal de demain. » Et donc, le journal du lendemain explique que ce film est une abomination absolue, une vulgarité, une violence, une cruauté. Et en fait, Powell va être quasiment, qui avait été un des plus grands cinéastes anglais, avec Les Chaussons Rouges, avec Le Narcisse Noir, avec Le Colonel Blimp, etc., va être quasiment interdit de cinéma jusqu'à la fin de ses jours et jusqu'à sa réhabilitation par Scorsese et Coppola longtemps après. Il va être quasiment interdit de cinéma jusqu'à la fin de ses jours par la critique anglaise à l'issue de la rencontre du Voyeur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Le Voyeur, justement, est né d'une rencontre. Il faut savoir que Powell a fait presque toute sa carrière avec un alter ego qui était son scénariste, qui était Emeric Pressburger, et au bout d'un moment, ils en ont eu un peu marre et ils ont décidé de faire route séparément. Et là, Powell va rencontrer un personnage très étonnant qui s'appelle Leo Marx, qui est un ancien espion, un ancien, plus exactement, chef des services de codage de l'espionnage britannique. Et Leo Marx a un cerveau extrêmement sinueux et c'est lui qui va pondre ce scénario incroyable du Voyeur. Mais alors, ce qui est incroyable aussi, c'est que Michael Powell, le réalisateur, et Leo Marx, le scénariste, voient deux choses totalement différentes dans le film. C'est-à-dire que pour Michael Powell, ce film dans lequel un homme tue des femmes avec sa caméra, c'est en fait une allégorie du réalisateur de cinéma qui balade son public un peu comme il le veut. Alors que pour Leo Marx, qui codait des espions qui ensuite partaient à la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, le film est une sorte d'allégorie de la passivité qu'il avait devant des gens et notamment des femmes qu'il envoyait à la mort. Et en fait, c'est un film dont le scénario lui permet en quelque sorte d'évacuer le sentiment de culpabilité qu'il avait en tant que codeur espion. Et donc, Powell a fait le film en croyant qu'il était en train de faire une allégorie du metteur en scène, alors qu'en réalité, le scénario sur lequel il travaillait était une sorte de purge psychanalytique de la vie de Marx, ou plus exactement de la partie de sa vie dans laquelle il envoyait des espions à la mort.
Look out! Look out! Look out! Take care. You are being watched. We repeat, take care, for you are now alone with a killer. We warn you, don't let him see the fear in your eyes. For this is what he seeks, and this is why he kills.
Where are you? Where are you?
Look out for Carl Byrne as the Peeping Tom. Fear him, but pity him also.
It's so good.
Watch out for Moira Shearer as the lovely stand-in who innocently dances into danger.
Imagine. Someone coming towards you. Who wants to kill you. regardless of consequences.
A madman?
Yes.
Wait! Look!
Retrouvez l'ensemble des contenus séance radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.